France Culture.
Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
Et voilà, c'est notre dernière rencontre aujourd'hui. On a essayé d'approcher dans les épisodes précédents la spécificité de votre travail romanesque et poétique. J'aimerais, pour cette dernière rencontre qui s'appelle Lionel Trouillot, un auteur engagé, j'aimerais qu'on parle de votre engagement en tant qu'auteur, mais aussi en tant que citoyen. En tant qu'auteur, j'ai l'impression que vous avez créé à Haïti une sorte d'espace de résistance en fédérant auteurs et autrices autour d'une revue, d'un atelier d'écriture, d'une bibliothèque. Racontez-nous comment tout ça s'est construit dans votre vie.
J'ai fait beaucoup de choses de cet ordre. Je dois rappeler que d'abord, quand j'ai commencé à écrire, donc dans mon adolescence, quand j'ai commencé à prendre l'écriture au sérieux, c'était la dictature de Duvalier. Donc, le premier texte que j'ai écrit, j'en ai écrit que je n'ai pas signé. À l'époque, c'était déjà risqué de les signer. J'étais toujours impliqué, je dirais, dans des activités collectives. Là encore, je crois que c'est une fausse contradiction entre le développement de l'écriture individuelle et le développement de pratiques collectives. J'ai jamais vécu comme une contradiction. Je pense que les pratiques collectives peuvent être le lieu de développement de pratiques individuelles. Et donc, quand j'ai atteint l'âge adulte et que j'ai commencé à avoir un peu de notoriété, cette culture dans laquelle j'étais né, ces pratiques dont j'avais l'habitude, je les ai un peu formalisées en créant moi-même ou en créant avec d'autres des structures de ce type. J'ai été secrétaire général de l'Association des écrivains haïtiens. Là encore, dans certains pays, on croit que toute association d'écrivains, ça envoie au stalinisme. Et là encore, c'est une bêtise. C'est une bêtise qui ne sévit pas encore en Haïti, heureusement. Donc oui, on a eu une association des écrivains. On a beaucoup travaillé ensemble. Après, j'ai créé personnellement deux choses qui me tiennent à cœur, il existe encore, les vendredis littéraires de l'Université Caraïbe. C'est un espace où tous les vendredis, des écrivains connus, Franck Étienne de Regretté Mémoire, René Philoctète, Georges Castera, tout ce monde d'écrivains connus et de qualité, des jeunes aspirants à être écrivains se rencontrent le vendredi et viennent discuter. Ils lisent leurs textes et ils discutent un peu. Après, j'ai créé l'atelier jeudi soir. L'atelier jeudi soir, c'est un atelier permanent de littérature qui existe depuis 2007, qui compte donc ce groupe qui travaille en permanence, et puis une maison d'édition qui publie les membres de cet atelier. Et aussi, le groupe est formé dans le domaine de l'animation d'ateliers, donc nous allons partout. Là, avec l'évolution de la conjoncture d'Haïti depuis 2022, il est difficile d'aller partout dans le pays, donc c'est plus concentré aujourd'hui à Port-au-Prince, mais le groupe Atelier jeudi soir, on voit partout, il y a une demande en Haïti, des membres donner, animer des ateliers d'écriture pour des jeunes, parce que dans un pays comme Haïti, il n'y a pas seulement une distribution inégale des richesses matérielles, il y a une distribution inégale des biens et des services culturels. Et donc, c'est une façon de mettre une once d'égalité dans l'évolution de la littérature haïtienne, parce que le garçon qui vit quelque part où il n'y a pas de bibliothèque, il n'a pas accès aux théories modernes, et où la fille, ils n'ont accès à rien. Ils ne deviendront jamais Lionel Trouillot. Il faut donc que quelqu'un aille vers eux. Et donc ce sont des pratiques qui m'ont toujours intéressé et qui me permettent aussi de me nourrir avec justement des discours que j'aurais jamais entendu si j'étais pas allé vers ces gamins et ces filles de la province. J'arrive dans une ville, une petite ville d'Haïti, et je demande qui est Lionel Trouillot, comme il y a la musique compas qu'on écoute beaucoup en Haïti, et il y a une jeune fille qui demande il joue dans quel groupe. C'est bien, c'est déjà une petite leçon d'humilité. Et j'aime beaucoup, et je pense que là, je peux dire que nous avons fait école, et c'est pas une pratique individuelle. Je pense que Yannick Lins le fait à son niveau, Evelyne Trouillot, ma sœur, le fait à son niveau. Nous le faisons parfois ensemble, parce que nous avons créé beaucoup d'institutions de ce type avec Evin. Il y a aussi le centre culturel que nous avons créé. Ensemble, nous animons des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture. La question de la transmission est pour moi une question fondamentale. Je dis souvent, ce pays m'a quand même donné quelque chose. Il m'a donné une culture savante et une culture littéraire. Autant essayer de rendre un peu de tout ça, parce que il y a cette nécessité de permettre aux autres de parler, de leur donner des armes pour qu'ils puissent se construire en tant que voix et surtout pour qu'on puisse les entendre.
Oui, c'est en ça que c'est une démarche politique.
Ah, totalement. J'assume totalement, et parfois ça se fait dans des conditions extrêmement difficiles, parce que toutes ces activités, on les fait sans le support de l'État. S'il y a quelque chose en Haïti qu'on peut appeler l'État, et on les fait sans le support des gens qui possèdent le capital en Haïti, c'est de l'héroïsme. Je parlais de des éditions de l'atelier jeudi soir. On a créé cette association, mais ce qui lui permet de vivre fondamentalement en tant qu'association et en tant que maison d'édition, Georgia Nicolas, qui est la coordonnatrice de l'atelier, et ce que j'y mets moi-même et ce que mettent les auteurs connus que nous publions. Moi, j'ai une entente avec Actes Sud. Quand je fais un livre avec Actes Sud, on fait une édition haïtienne sur laquelle ni Actes Sud ni moi ne gagnons de l'argent. Et le produit des ventes va à l'atelier jeudi soir, ce qui nous permet de publier de jeunes écrivains. Et des auteurs connus, Georges Castera, Evelyne Trouillot, quand ils font un livre avec nous, ils cèdent leurs droits à l'association. Et là encore, ça permet de publier des jeunes qui, dans beaucoup de cas, n'auraient aucune chance d'être publiés s'il n'y avait pas ce genre d'association et ce genre de cadre pour les recevoir. Parce que au niveau de l'atelier jeudi soir, nous recevons des gens parfois quand ils sont très jeunes. Et 4 ans après, c'est leur premier livre. Et pour moi, c'est un bonheur de voir l'écriture naître chez quelqu'un et de voir ensuite ces écrivains-là faire leur chemin.
Ces jeunes gens dont vous nous parlez, qui fréquentent votre atelier d'écriture, ils ont quel âge quand ils arrivent?
On parle de 19 à 26, 27 ans. Mais l'atelier, il y a des personnes plus âgées, puisque l'atelier, c'est quand même une vingtaine de personnes. Mais les nouveaux, ils sont vraiment très jeunes.
Ils sont vraiment très jeunes. Ils sont étudiants?
Ils sont pour la plupart étudiants.
Ouais, mais pourquoi c'est aussi important pour vous de faire émerger cette nouvelle littérature haïtienne? Ça peut être des concurrents aussi, vous pourriez le vivre comme ça en tant qu'écrivain.
Oh, je pense que dans la tradition littéraire haïtienne, on n'a jamais vécu cela, c'est pas... On n'a jamais vécu ainsi. Moi, je parlais d'école, mais c'est aussi une école politique. Dans un sens, quand j'ai rencontré Georges Castera, je devais avoir 16 ans, lui. Il avait 20 ans de plus que moi, et il m'accueillait. D'ailleurs, souvent, il disait, lui, il n'arrêtait pas de me suivre partout où j'allais à New York, et ça l'a pas embêté. Il m'a aidé à naître comme écrivain. Quand j'ai rencontré plus tard René Philoctète, on se réunissait sous le manguier de René Philoctète, et il disait à sa femme, tu vois, ils sont encore venus m'emmerder, ces jeunes, mais ils nous recevaient, ils échangeaient avec nous. Donc, c'est vraiment une tradition, haïtienne. Je peux dire que de ce point de vue-là, même si les choses ont un peu changé, Haïti n'est pas encore contaminé par cette idée de la concurrence. Écoutez, en Haïti, on se demande pas combien t'as vendu, toi, par rapport à combien j'ai vendu, moi, combien ils t'ont versé comme avaloir, par rapport à combien ils m'ont versé. Moi, je pense que on n'a jamais vécu l'écriture vraiment en Haïti comme une source de revenus, peut-être comme une source de prestige, mais surtout comme un lieu de parole, justement, où un jeu parle de lui-même et aussi parle de la possibilité d'une collectivité. Philoctète, quand il dit jeu, il disait souvent jeu dans son œuvre, c'était toujours un jeu en relation avec un nous. Je pense que cette tradition-là, elle est saine. Et je pense qu'il y a beaucoup de traditions à détruire, mais peut-être pas celle-là.
Vous parlez toujours de Philoctète?
Parce que c'est un maître pour moi. C'est un maître pour moi, c'est le poète de la bonté, c'est le poète de l'espérance humaine, et c'est le poète qui a exposé les difficultés haïtiennes tout en considérant toujours Haïti comme une terre viable. Ça, c'est quelque chose de... Georges Castera, autre grand poète, disait qu'aucun paratonnerre ne peut nous protéger de l'ouragan Philoctète. Mais écoute, si vous allez en Haïti, il y aura toujours un jeune quelque part à déclamer un poème de Philoctète. Donc c'est le poète, si vous voulez, du nous haïtien, de la possibilité d'une collectivité heureuse.
Mais ces ateliers du jeudi soir, Lionel Trouillot, et ces rencontres du vendredi, cette façon d'animer comme ça toute une vie littéraire haïtienne, c'est aussi peut-être une façon de résister politiquement à certaines choses.
Je ne sais pas s'il faut appeler ça de la résistance. C'est une façon de poser la viabilité d'Haïti. Vous savez, en Haïti, quand on parle littérature, la politique et le social ne sont jamais très loin. Et donc, on écrit des poèmes, on écrit des romans, on parle littérature, on parle théorie littéraire, on parle du jeu qu'est la littérature, on parle toujours des enjeux. La littérature haïtienne, jusqu'à présent, elle n'a jamais oublié les enjeux sociaux. Et ça n'en fait pas une mauvaise littérature. Au contraire, je pense que ça en fait une très belle littérature, très riche. Donc, je ne sais pas s'il faut appeler ça de la résistance, mais c'est une façon d'habiter la vie autrement. Et ça n'empêche pas d'avoir des activités politiques en direct, parfois à l'intérieur de structures politiques organisées, parfois de manière individuelle. Mais c'est une façon de ne pas participer à cette sorte de perte de langage organisée en Haïti par ceux qui occupent le haut de la fonction publique, par la communauté internationale qui impose des dictats au nom d'une prétendue démocratie qui n'a jamais été en Haïti qu'une parodie par rapport à ceux qui ont tout le capital, mais qui n'ont jamais produit un discours de construction nationale. La révolution haïtienne est une grande révolution, mais c'est une révolution muette politiquement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas donné lieu à des discours politiques élaborés sur comment habiter cette terre conquise par les armes, comment l'habiter ensemble. Et c'est la littérature, la poésie, plus que tout, et un peu le roman, qui a toujours porté ce discours de la viabilité d'une collectivité haïtienne. Donc faire de la littérature en Haïti dans cette tradition-là, c'est maintenir le pari d'une Haïti possible. Si on connaît l'histoire de la vie politique haïtienne et l'histoire de la littérature, on verra que ça va souvent ensemble. D'ailleurs, les deux écrivains haïtiens peut-être les plus connus, Jacques Roumain, grand écrivain, auteur des Gouverneurs de la Rosée, fondateur des partis politiques. Jacques-Stéphane Alexis, auteur de Compère Général Soleil, Les Arts Musiciens, etc., fondateur de partis politiques.
Ben chez vous aussi, Lionel Trouillot. Vous signez des tribunes, enfin, vous avez oui. Au fil des années...
Et toujours, il y a aussi, de la part des écrivains, enfin, surtout ceux qui vivent en Haïti, il n'y a pas de reproche dans ce que je dis, mais quand on vit en Haïti, on se sent souvent une sorte de devoir pétitionnaire. Comment venir ici à Paris, radoter sur les petits livres que j'écris, et ne pas utiliser cette notoriété pour rédiger des pétitions ou des appels pour dire au monde « Attention, on est en train de massacrer un peuple ». Donc je pense que cela, nous le faisons. Je pense que la plupart des écrivains connus vivant en Haïti le font. Oui, il faut utiliser la notoriété comme une arme politique au service des intérêts de la nation et comme un outil de dénonciation de ce qui paraît injuste, humainement inacceptable.
Oui, mais c'est pas toujours simple, Lionel Trouillot, dans votre engagement en tant que citoyen. Vous avez dû partir à Miami, à un moment donné. Enfin, je veux dire, vous vous mettez en danger aussi.
Le départ, c'est un peu, c'est les années Jean-Claude Duvalier. Il y a eu en 1980 une vague de répression contre les journalistes. Oui, je peux dire, à ce moment-là, j'ai préféré un peu m'éloigner, mais j'ai tenu un an à l'étranger. Après, je suis revenu à ici, c'était, vous savez, il y a toujours un minimum de prise de risque, quoi. Et puis, on fait avec, vous savez, quand on vit dans un pays comme Haïti, prendre la parole pour dénoncer un gouvernement, même prendre la parole pour dénoncer les détenteurs du capital, on est dans une prise de risque. Et puis, bon, si on fait le choix de dénoncer, on accepte cela. Il faut toujours se dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus en danger que nous-mêmes. Mais tous ces anonymes, tous ces garçons et filles anonymes qui essaient de faire de la politique, qui essaient d'écrire, qui n'ont pas la notoriété, qui n'ont pas les moyens, qui souvent sont victimes d'une répression très violente dans les quartiers populaires. Puis vous savez, en Haïti, c'est devenu une sorte de banalité. On a un petit quotidien du risque et on fait avec.
Concrètement, ça veut dire quoi, être écrivain et avoir les activités que vous avez dont vous venez de parler? C'est possible, c'est plus possible, comment vous y êtes?
C'est possible dans la difficulté. Par exemple, l'atelier jeudi soir, on fonctionne toujours, mais là, on regroupe au maximum nos activités dans le centre culturel que nous avons créé, Evelyne Trouillot et moi-même. Et souvent, quand on a des rencontres, les jeunes, ils restent dormir là, parce qu'il n'y a pas moyen de rentrer chez eux, ça tire dans les quartiers d'où ils viennent. Donc on s'adapte et on ne peut pas faire silence. On ne peut pas faire silence parce que c'est le silence qui tue. On ne peut pas faire silence, on ne peut pas accepter cette sorte de mise à mort symbolique que serait le silence. Et quand vous avez des garçons et des filles, je parle d'un groupe qui vient de se créer à Cité Soleil, qui viennent de créer un groupe de recherche sur la littérature et les questions sociales. Alors quand vous avez des jeunes qui font ça, il faut bien que quelqu'un aille vers eux. Parce que tout a été fait pour qu'ils finissent dans des gangs, pour qu'ils deviennent des assassins à 15 ans.
Des jeunes de Cité Soleil, rappelez-nous ce qu'est Cité Soleil.
À Cité Soleil, c'est le plus grand bidonville d'Haïti, avec au moins 400 000 personnes occupées par des gangs, subdivisés en petites cités, petits quartiers avec leur autonomie, parfois en conflit les uns avec les autres, et puis évidemment avec un degré de pauvreté, d'insalubrité qui est incroyable, mais voir qu'il y a des groupes de recherche sur la littérature et le social. Comme je vous disais, ça va toujours ensemble en Haïti qui prennent naissance. Moi, j'estime qu'il est du devoir des gens comme moi d'aller vers ces jeunes parce que vous avez utilisé le mot transmission. C'est fondamental. Il y a quelque chose à transmettre. Et on a aussi beaucoup de choses à apprendre de ces jeunes-là. Il y a aussi un autre travail que j'aime beaucoup faire. C'est faire connaître à l'étranger les jeunes écrivains haïtiens. Ça, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Et là, j'ai déjà fait, mais on va en faire une anthologie de la jeune poésie créole haïtienne avec traduction en français. Que les lecteurs francophones du monde puissent connaître cette littérature qui se développe en Haïti.
Mais comment fonctionne le monde du livre en Haïti? En deux mots, il y a encore des maisons d'édition, il y a des librairies, c'est possible de faire circuler les livres?
Il y a peu de librairies. Il y a peu de librairies. À Port-au-Prince, il y a deux librairies. Ça ne se renouvelle pas trop le stock, bon, à cause des. Il y a pratiquement plus d'aéroports ouverts, mais il y a quand même une vie du livre. Il y a beaucoup de livres à compte d'auteur. Et le compte d'auteur en Haïti n'est pas signe de mauvaise qualité. C'est une vieille tradition haïtienne. Philoctète, il avait fait tous ses livres à compte d'auteur. Et il y a aussi de jeunes maisons d'édition créées par des garçons et des filles qui essaient de donner un renouveau à la publication en Haïti. Ces maisons ont énormément de difficultés. D'ailleurs, personnellement, j'ai fait des livres avec des petites maisons de ce type simplement pour les encourager, sans réclamer de droits d'auteur. Il y a une vie du livre en Haïti, mais aussi la vie du texte n'est pas prisonnière de la vie du livre. Il y a beaucoup d'activités, de lectures publiques, malgré le désordre politique, malgré la pauvreté, il y a une circulation orale des textes littéraires qui est très importante.
Mais pour en revenir à votre engagement, Lionel Trouillot, si vous regardez depuis le début de votre vie jusqu'à maintenant, comment vous analysez l'évolution de votre engagement?
Je ne sais pas s'il y a une évolution. Il y a des moments où je me suis retrouvé plus engagé dans des activités politiques directes. Il y a des moments comme actuellement, je suis totalement dans une sorte d'activisme culturel, mais avec évidemment un fond politique. Et d'ailleurs, tous les groupes que j'ai créé sont des groupes fondés sur l'idée, sans aucune hésitation, que les jeux littéraires, il faut les lier à des enjeux sociaux. Il y a un manifeste de l'atelier jeudi soir où c'est clairement écrit. Maintenant, comment ça va se décliner dans chaque écriture individuelle, ça, on n'a pas d'autorité là-dessus. Mais cette préoccupation du lien entre le jeu littéraire et les enjeux sociaux, elle est fondamentale. Et puis après, chacun, chacune produit une œuvre en fonction de la relation personnelle avec ce principe. Et ça ne veut pas dire non plus une littérature de slogan où on va dire forcément voilà, oui, il faut telle option politique. C'est fondamental. Et encore une fois, c'est pas que chez moi. Une fois, il y a une dame qui était venue au Vendredi littéraire et qui avait lu un roman, un extrait de roman dans lequel il y avait une grande famille haïtienne qui passait ses vacances sur une plage en Espagne. Et un garçon qui s'est levé dans l'assistance et qui lui a dit « Madame, vous savez, j'ai l'impression qu'entre vous et moi, il y a un malentendu sur le pays dans lequel nous vivons. Donc Nous, on essaie, pour éviter le malentendu, d'être du côté de ce jeune homme. Mais ça n'a rien à voir avec quand l'exigence de la qualité littéraire sur laquelle on ne plaisante pas du tout.
Et sur votre engagement politique en tant que citoyen, quelle est l'évolution que vous observez ?
Là encore, je ne sais pas si c'est une évolution. Vous savez, il y a des moments où, dans nos vies, mais ça, j'aime pas tellement en parler, parce que ça, c'est parler de moi. Il y a des moments où j'ai été très engagé dans des partis politiques et des activités politiques. Moi, je me suis toujours défini comme un porteur de l'idéal communiste, j'assume. Et donc, il y a des moments où j'ai été engagé dans la vie de tel ou tel parti. À d'autres moments, ma présence à la réalité haïtienne, ma modeste contribution à la question haïtienne, elle s'est faite autrement. Et là, je peux dire, c'est un peu les conjonctures, parfois, qui décident de la manière dont on va essayer d'être présent pour participer tant soit peu à la transformation de la société vers quelque chose de plus juste, de plus humain.
Et vous êtes un écrivain féministe ? On a parlé de vos personnages féminins hier.
Je ne sais pas, il y a certains usages du mot qui me dérangent. Je dis bien certains usages, mais la question évidemment de la condition des femmes, je préfère dire des femmes que de la femme pour éviter tout essentialisme, est une question fondamentale. Et si on parle des injustices sociales, des systèmes d'exploitation, de domination, d'exclusion, comment ne pas poser justement la question des effets de ce système sur les femmes, lesquels effets prennent des formes différentes dépendamment des sociétés, de leur niveau de développement, de leur tradition culturelle. Mais il me semble que c'est une question fondamentale. Et comme je dis, que j'écris avec ce que je vois et ce que j'entends. Je vois toutes ces injustices qui prennent des formes différentes. Et là-dessus, à mon avis, on peut pas être féministe dans une banlieue de Port-au-Prince comme on est féministe dans un milieu riche à Paris. C'est pas forcément le même combat dans ce qui a trait aux conditions historiques. Mais cette question des injustices subies par les femmes, c'est une question fondamentale. Et comme moi, j'essaie, encore une fois, en toute modestie, d'écouter les voix que peut-être on n'écoute pas. Et je vois beaucoup de voix de femmes qu'on n'écoute pas en Haïti, donc ces voix, elles reviennent souvent dans ce que j'écris. Et peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'habite et qui fait que ces voix-là, elles reviennent en effet plus souvent que celles des hommes. Mais là, je peux pas me psychanalyser.
Et pour en revenir à vos livres, Lionel Trouillot, vous avez publié au printemps 2024 un petit livre qui s'appelle « Lettres à Matisse ». Et ah oui. qui est différent de ce que, il me semble, de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est une sorte de conversation avec un petit garçon, une conversation supposée, où j'avais l'impression que vous aviez envie de transmettre quelque chose de votre engagement, de votre littérature, comme si vous faisiez un peu un bilan de votre travail, de votre vie jusqu'à maintenant.
J'aime pas trop le mot bilan, comme dit un vieil ami à moi, tout bilan est négatif. Mais quelque part, c'est un peu ça, c'est un peu visiter mon parcours, mes intentions, et j'ai découvert beaucoup de choses en écrivant ce petit livre, et parfois on croit savoir qui on est, vers quoi on va, et puis quand on se met à écrire, on se dit tiens, voilà que ça me conduit à un autre chemin, même à une autre intention. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce livre. Le petit garçon, il existe vraiment. Matisse, évidemment, il n'est pas en âge de le lire. Le livre, j'espère qu'il y jettera un coup d'œil quand il sera en âge, mais s'il le fait pas, c'est pas grave.
Mais pourquoi vous avez écrit ce livre maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Pour me parler à moi-même, et puis toujours obsédé par cette idée de la transmission. J'ai peut-être, sans être vanité, un petit quelque chose à dire sur ce que j'ai tenté dans le domaine de la littérature. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait s'appeler un jour une œuvre. Et donc mettre un peu ses secrets ou ses points de départ et ses intentions, mettre un peu tout cela en discussion, pourquoi pas. Et sur ce mode-là, sur un mode assez vivant d'une certaine manière, en imaginant cette conversation avec le petit Matisse. Et je me suis amusé à faire ça. Il y a beaucoup d'autodérision d'ailleurs dans ce petit livre. Il y a même tout un fragment sur sur l'autodérision. J'essaie de ne pas trop me prendre au sérieux, de prendre les enjeux sociaux au sérieux, l'enjeu de l'écriture littéraire, parce que c'est un enjeu quelque part. Quand on se permet d'écrire et de publier, pourquoi est-ce qu'on emmerde le lecteur à lui donner quelque chose à lire? Donc, se taquiner soi-même, s'interroger sur la nécessité de ce qu'on a produit, et s'interroger surtout sur les enjeux autour de ce jeu d'écrire. Donc, comme j'aime beaucoup aussi la théorie littéraire dans son lien avec la théorie sociale, c'est un peu converser autour de tout cela. Quelque part, c'est très peu un livre d'écrivain d'une certaine manière, même si c'est un livre d'écrivain, parce que bon, ça parle un peu des processus de la création ou de la production, donc un peu de ce que j'ai fait ou tenté de faire, mais au-delà de ça, c'est la question des enjeux humains derrière les enjeux de la littérature.
Et qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, ce travail ?
Des petites choses que j'étais assez sincère quand je parle souvent de l'autodérision, que j'étais assez sincère et puis que j'ai pas de gourmandise. Peut-être que je suis habité sans trop le savoir, hein, mais peut-être que j'ai pas de gourmandise, peut-être que j'aime beaucoup regarder et écouter, et que dans les livres que j'écris, cette présence de l'autre est quelque chose de fondamental pour moi. Quelque part, je pense que toute vie individuelle est un peu une vie ratée, quelque part. Parce qu'on passe toujours à côté de choses, de propositions qu'on avait sur soi-même. D'ailleurs, il a dit dans ce livre que mon rêve, c'était d'être un grand joueur de volleyball. Ma taille ne me l'a pas permis. Bon, quelque part, ce que je vis, j'aime bien ce que je vis. J'ai pas eu une vie triste. J'aime bien mes histoires d'amour, mes amitiés. Donc, je suis pas malheureux dans ma vie, mais il m'est souvent arrivé de me dire, si c'était pas l'essentiel. Si l'essentiel, c'était peut-être ce que tu avais à dire sur les autres. Et donc, ce livre m'a permis d'habiter cela en toute tranquillité. Ça, c'est pas quelque chose que j'apprends. Ce que j'ai peut-être appris en écrivant ce livre, c'est que c'était vraiment fort. Chez moi, donc, j'aime bien un petit étranger sans vanité que je rencontre dans ce livre et qui est quelque part un peu moi.
Merci Lionel Trouillot, merci infiniment pour ces rencontres.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Lionel Trouillot, réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Stéphane Foulon, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Sylvie Tanette disponible sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.